10h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous. Élections régionales et départementales. Le premier tour, c'est aujourd'hui et une faible participation est à craindre. Plus de 47 millions de Français sont inscrits sur les listes électorales, mais il est possible que l'abstention dépasse le record établi en 2010, qui était de plus de 53% pour les régionales et plus de 55% pour les cantonales. Télétravail, des personnalités plaident pour l'instauration d'un chèque bureau sur le modèle du ticket restaurant, un dispositif qui permettrait notamment de payer aux salariés l'accès à un espace de coworking. Dans une tribune publiée dans le journal du dimanche, l'ancienne ministre du Travail, Myriam El Khomri et Benoît Hamon notamment, rappellent que dans l'accord prévu, le télétravail peut également s'exercer dans un lieu hors du domicile. Couvre-feu, il prend fin dimanche soir sur le territoire. Les restrictions de déplacement le soir et la nuit étaient en place depuis 8 mois en France. Et c'est en avance sur le calendrier que le couvre-feu est levé. Il devait être en place jusqu'au 30 juin, une mesure qui était de plus en plus contestée. Aux États-Unis, après l'épidémie, une hausse de la violence est constatée à Chicago. Lundi, les commerces doivent rouvrir dans la ville, mais la recrudescence des violences tient les clients éloignés. Les fusillades sur l'autoroute battent des records. 93 ont été enregistrées depuis le début de l'année, contre 39 à la même période en 2020. Présidentielle en Iran, l'ONG Amnesty International appelle à enquêter sur le président élu pour crimes contre l'humanité et répression brutale. Elle accuse Ebrahim Raisi à la tête du pays depuis hier d'avoir été membre d'une commission de la mort. Les faits se seraient produits lorsqu'il était procureur adjoint du tribunal révolutionnaire de Téhéran en 1988. Interrogé en 2018 et 2020, le principal intéressé a nié toute implication. Cinéma, Le Diable s'habille en Prada n'a pas laissé un bon souvenir à Meryl Streep. L'actrice a détesté incarner Miranda Priestly. Elle a récemment raconté qu'elle avait été complètement déprimée pendant le tournage du film.
RVE, le point sur l'actualité locale.
Bonjour, dans l'actualité locale, aujourd'hui on parle d'élections, élections départementales, anciennement appelées élections cantonales. Pour le canton de Rambouillet, 4 binômes se présentent au suffrage des électeurs et puis on votera aussi aujourd'hui pour élire également les conseillers régionaux. Ce dimanche 20 juin, c'est la fête des pères. Bonne fête à tous les papas. Et l'espace Rambouillet, eh bien, offre aujourd'hui la possibilité de grimper en haut d'un grand chêne avec l'association iTree. Activité de 1 heure qui doit être réservée en arrivant au parc. Les places sont limitées. Un atelier de découverte de quelques plantes comestibles dans nos sous-bois sera également ouvert entre 13h30 et 15h30. Et il y a aussi une initiation à la vannerie sous forme de petit atelier pour les enfants les plus grands entre 16h et 18h. On parle de vaccination avec le 17 juillet prochain, le centre de Rambouillet, à Salle Patenaude, qui fermera ses portes. Les personnes qui ont reçu une première dose et qui doivent faire un rappel après la mi-juillet ont plusieurs options. Soit elles se représentent à un rendez-vous sur Doctolib au vaccinodrome de Saint-Quentin en Yvelines, soit elles peuvent se faire vacciner dans le nouveau centre de Vélizy 2 sans avoir besoin de réserver. C'est ce qu'a expliqué l'Agence régionale de santé. Et puis, on ne renonce pas à la fête de la musique à Épernon, en Eure-et-Loire, puisque aujourd'hui, à 16h, vous aurez un concert joué et chanté de l'école municipale de musique d'Épernon, et cela aura lieu au Prairial. Et puis, les portes ouvertes à l'école de musique seront organisées dans la journée au 18 rue Louis Drouet. La météo de ce dimanche, on nous prévoit un ciel qui sera une alternance d'éclaircies, de passages nuageux, pouvant donner lieu à de rares averses, avec des risques orageux dans la soirée. Les températures en milieu de journée sont prévus aux alentours de 20 à 21 degrés.
103.7, évidemment, dans quelques instants, on va retrouver l'actualité sportive avec votre émission Tribune Sport, présentée par Philippe Carnus et son équipe jusqu'à 11h. Et je vous rappelle nos réseaux avec la page Facebook Radio RVE ou encore le site radio-rve.com. Très bonne écoute. À présent, parlons sport sur RVE.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu.
Eh bien effectivement, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce dimanche 20 juin. Alors on va d'abord remercier Kevin du cabaret de l'auberge du bout du pré de nous avoir permis d'être là. On a eu des petits problèmes pour venir ce matin. Sans Kevin, cette émission elle aurait commencé en retard, donc merci à lui. Je sais qu'il nous écoute dans cette émission Tribune Sport. Alors c'est la fête des papas aussi, hein. On va souhaiter une bonne fête à tous les papas qui nous écoutent ce matin. Ils sont très très nombreux et puis comme nous sommes papas, on va aussi se souhaiter une bonne fête. On va naturellement accompagner l'actu de ce moment en parlant beaucoup de l'Euro de foot. On reviendra aussi un tout petit peu sur la finale de Roland-Garros avec nos deux invités. Puis on n'oubliera pas aussi les courses aujourd'hui à l'hippodrome de Rambouillet vers donc 10h45. José Vega viendra nous donner les pronos pour cette sixième réunion de la saison. Il y a encore un prix Hervé aujourd'hui. Alors ravi en tout cas d'accueillir notre ami Stéphanois Bibi Moreau. Comment ça va, Bibi?
Bonjour Philippe, bah ça va, hein. Bonjour à tous, hein. On retrouve la maison,
tous
ça fait du bien.
De France, hein.
Tous derrière l'équipe de France, hein, comme oui. D'habitude.
Mm-hmm. Hein. Ok, et puis bah celui qui nous a beaucoup accompagnés tout au long de la saison dans les différentes tribunes foot, il était là la semaine dernière aussi pour parler de tennis et puis Roland Garros, c'est Pierre. Salut Pierre.
Salut Philippe, ouais. Bonjour à tous, ah. Ravi de retour de Bibi, ça fait ouais, plaisir.
C'est bien. De retrouver la famille.
Ah, oui. Voilà, juste avant d'entrer dans le vif du sujet concernant le ballon rond, hein, on regarde tous les matchs actuellement, messieurs, sur 7 euros, et puis on verra naturellement sur les matchs de l'équipe de France, la victoire face à l'Allemagne et hier le nul contre la Hongrie, un partout. Juste un petit mot sur la finale de Roland Garros. Oui. La semaine dernière, on avait pronostiqué Djokovic sur Tsipras. Ça a été un peu plus compliqué que prévu. Beaucoup disaient, ouais, en 3-7, moi je mettais en 4, et puis finalement il s'est imposé donc en 5-7, hein, 6-7, 2-6, 6-1, 6-2, 6-4, il a perdu les deux premiers sets, et il a bien redressé la situation, il s'impose en grand champion, deuxième Roland-Garros, 19e tournoi du Grand Chelem. Cette finale, elle a été à l'image de cette quinzaine, une belle finale.
C'est vrai, c'était une très belle finale, avec des rebondissements, beaucoup d'enjeux, des gros points, un petit passe au rendez-vous. C'est vrai que moi, dans la semaine dernière, je pensais que Djokovic gagnerait en 3-7.
Oui, mais c'est ça le sport.
C'est ça.
C'est bien, c'est bien.
Et puis, comme à son habitude, il est allé, après la perte du deuxième set, il est retourné au vestiaire un peu se changer les idées. Ouais. Il est revenu, puis il a gagné le match.
Tout a changé, ouais.
Voilà. non, c'était une très belle quinzaine.
4-11, exactement le même temps que la demi-finale contre Nadal.
Oui. Ouais. Après, c'était un peu, il y avait moins d'intensité.
Oui, bien sûr.
C'était parce qu'on a vécu quand même un moment d'anthologie. Une demi-finale contre Nadal, c'était magnifique.
Ouais, mais enfin, il a perdu les deux premiers sets. Il gagne ensuite les trois autres. Ça fait une finale en 5-7. Je crois qu'il faut remonter à Lendl McEnroe pour voir une finale en 5-7 en 84.
Oui, bah après, c'est parce que Nadal, il mangeait tout le monde sur son passage. Mais ouais. Non, ça promet un bel avenir parce que Tsitsipas, il a quand même, je pense qu'il a franchi un palier lui aussi, que on le retrouvera au rendez-vous l'année prochaine. Et puis Djokovic, là maintenant, il va aller de pied ferme à Wimbledon pour essayer d'égaler le 20e Grand Chelem et rattraper Roger et Rafa.
Oui, très bien. Bibi, Roland Garros, vous avez suivi.
Oui, puis ça restait, je veux dire que c'était quand même, c'est intéressant tous ces grands matchs qui durent longtemps où bon, on a quand même de la surprise dans le temps, tout. Puis bon, ça reste quand même des grands joueurs. Hein. C'était cette intensité. Oui. Comme
alors des fois, bon, Roland Garros nous déçoit un peu pour le spectacle. Là, ça a été super. On a eu un très beau match et puis une grande finale. Et puis il a fait très beau pendant 15 jours.
Hein. Il a fait très beau pendant 15 jours.
Je crois qu'il n'y a pas eu ou depuis.
Non, non. Il y a eu des belles surprises, des gros matchs, des surprises. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un Roland Garros aussi haletant. À l'image un peu de la saison de la Ligue 1 où il y a eu
c'est passionnant. Ouais, non, mais c'est ça. Qui est...
Après, est-ce que c'est aussi dû au Covid que tout est remis un peu en question, etc. Je sais pas. Mais c'est franchement, moi, ça m'a un peu réconcilié avec Roland Garros où j'avais l'habitude de m'ennuyer parce que bon, Nadal. Comme je le disais, il était tout le temps le vainqueur, donc on savait un peu à l'avance ce qui se passait. Mais là, c'est vrai que c'était vraiment très plaisant.
Il y a eu un peu plus de piment.
Voilà. Et puis on a vu que Pierre, il connaissait très bien le tennis. Hein,
Pierre est un expert de beaucoup de choses. Hein.
Voilà, merci. C'est ça.
Non, mais c'est vrai. Hein.
Alors, donc, la quinzaine de Roland-Garros terminée, on a enchaîné sur l'Euro de foot, c'est ça, hein, quand on est reporter sportif, c'est ça qui est fabuleux. Et avant donc de parler de l'Euro et des matchs de l'équipe de France, Bibi, un petit mot sur Saint-Etienne, 11e du championnat. Les Verts, ça avait pas très bien commencé.
Non,
a craint qu'ils descendent et puis finalement ça s'est bien dressé grâce quand même au beau travail de Claude Puel.
Voilà, de toute façon le problème des Verts c'est répétitif chaque année. Hein. Je veux dire que quand on veut pas investir, quand on vend les joueurs, c'est encore une histoire d'argent, une histoire de moyens. Saint-Etienne, on les attend toujours parce qu'on est un peu dans notre passé. Là avec les deux directeurs ils ont pas voulu investir. Bon c'est vrai que ça a été dur au début. Puel a fait du bon travail.
On lui a reproché de faire jouer trop les jeunes.
Oui, mais enfin, on a
mais
quand
ça
même.
Payé, hein.
Ça a payé, puisque notre gardien a quand même été sélectionné. Notre jeune Étienne Green.
Ah, il a le nom qu'il faut.
Son père, Green, c'est son nom. Son père était un grand supporter de Saint-Etienne. Mmh. Il était formé et joue. Il joue dans son club de cœur et là, il vient d'être sélectionné en équipe de France. Je veux dire que. c'est bien de lancer les jeunes et pour l'avenir, pour tout ce qui doit normalement arriver, je pense que c'est une bonne chose. Et Saint-Étienne redevient maintenant à relancer son centre de formation. Enfin, il a oui. toujours existé. Mais la formation en France, c'est important. Et pour des clubs comme Saint-Étienne, je pense que ça peut être qu'un bien pour l'avenir, quoi.
Mmh. Ouais, il y a eu des jeunes qui sont sortis. Madi Camara, je trouve qu'il est vraiment très bon. Ouais. Et puis, bah, Claude Puel, moi, ce que j'ai aimé, c'est que c'est vrai qu'au début, il s'était un peu brouillé avec les anciens, etc. Puis il les a relancés au final, voilà. après. Je vois Wabi Kazri, Amouma, etc., qui sont revenus et qui ont fait du bien.
Et il a redonné de la confiance à tout le monde.
Et c'est important, ça.
Et là, et c'est le fait de reformer ces jeunes, bon, normalement, bon, c'est un secret pour personne. Le club est en train d'être vendu. Je pense que par la suite, Saint-Étienne va se donner les moyens de conserver ses jeunes. Et là, ça va être une bonne chose. Enfin, de les conserver pendant un certain nombre d'années, parce qu'à un moment, quand les gros clubs mettront le paquet, on pourra plus les garder. Mais je pense que c'est une bonne chose pour l'avenir.
Très bien. Allez, on enchaîne sur l'Euro, messieurs. L'équipe de France, donc vainqueur d'un match à très haute intensité contre l'Allemagne mardi 1-0. Hier, ça a été un petit peu plus compliqué. Match moyen de l'équipe de France, un partout. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, l'équipe de France, quoi qu'il arrive, va se qualifier, quel que soit le match contre le Portugal, parce que avec 4 points, on est pratiquement même battu parmi les meilleurs troisièmes. Qu'est-ce que vous en pensez de ces prestations de l'équipe de France?
Honnêtement?
Oui.
Alors,
t'es là pour ça. Hein.
Voilà, j'ai parlé avec mon honnêteté habituelle.
Oui, oui, oui.
Si tout va bien, honnêtement, je pense que le premier match de l'équipe de France. Pour moi, je me suis pas penché sur sur les matchs, les poules, parce que c'est un peu Tchernobyl, c'est compliqué. Pour moi, le premier match de l'équipe de France, sur ce que j'ai vu de l'Euro, ce sera la finale.
Oui, c'est sera, tout à fait
voilà.
possible.
Après, ouais. Parce qu'il n'y a pas de grosses équipes. Alors, l'avantage de cet Euro, c'est que il n'y a pas de petites équipes comme on peut voir dans certains euros. Mais il n'y a pas d'équipe qui m'ont, à part la France et l'Allemagne.
Italie,
non,
oui,
ça joue bien, non, mais.
C'est l'Italie, si.
Et puis l'Allemagne, quand même.
Non, mais j'ai à part l'Allemagne et la France. Ouais. Non, mais si on veut regarder, il y a l'Angleterre aussi qui pourrait être. Voilà. Non.
C'était une purge, je vous redis ça.
Mais, oui, mais. Après, il n'y a pas d'équipe qui m'ont, voilà, qui m'ont impressionné. Il y a des, il y a de très bonnes équipes. Mais enfin, moi, l'Italie, ça m'a pas.
Une équipe offensive qui fait du spectacle, qui fait du jeu. Alors après. Ils vont peut-être pas tenir à moi. Ça.
Le Portugal a fait du spectacle sur son premier match. Hein. Je veux dire,
ouais,
même
ils
si.
Ils ont souffert devant la Hongrie quand même. Hein. Ils
oui, mais.
3-0
il n'y a pas.
Match, Bon.
Moi,
Pierre,
je.
C'est le premier match de l'équipe de France. Alors, un match d'une très haute intensité contre l'Allemagne.
C'était costaud.
Hein. Un combat de guerriers, hein, de combattants. L'équipe de France a su gagner. Hier, ça a été plus compliqué, plus moyen, simplement parce que l'équipe de France a failli offensivement.
Alors,
si elle marque offensivement,
il n'y a plus de match. En fait, j'ai eu beaucoup de mal, moi, à me lancer dans cet Euro. Je trouvais que les matchs n'étaient pas très prenants. Enfin, je me rappelle de l'Espagne-Suède, etc.
Ouais, puis le match. Voilà.
Et le match de la France contre l'Allemagne, ça m'a lancé, quoi. Enfin, c'était un match.
De très haut niveau, sur le tour plan de l'intensité.
C'est du
lourd. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. Un match, un vrai match de guerrier, quoi.
Je ne savais pas trop quoi penser des Bleus parce que je trouvais que c'était un peu biaisé. Le match contre le Pays de Galles.
Contre
la Bulgarie, voilà.
Il faut gagner ces matchs, quand même.
Et puis on était un peu aussi dans l'attente via à cause du retour de Benzema,
oui,
etc.
Il a pas marqué pour l'instant. Hein.
Et en fait, ce match-là nous a beaucoup rassurés et peut-être trop. Et en fait, le match contre la Hongrie hier est peut-être un mal pour un bien parce que nous va faire redescendre sur terre. Après, c'est vrai que la première mi-temps, il n'y a pas photo, quoi. On a 4-5 très grosses occasions.
Si on les
c'est
marque,
Karim Benzema.
Si on en marque une,
voilà.
Benzema, c'est la plus importante, c'est la plus grosse occasion.
Voilà,
hein.
Ouais.
Si elle va au fond, c'est sûr que le match est différent.
Voilà. Après,
ça, foot, hein.
Bon, on prend le but juste avant à la fin de la première mi-temps et on commence à être inquiet. Et puis, il y a eu un retour et ils sont revenus dans le match. Ils ont réussi à marquer ce but qui mine de rien est important parce que
encore Griezmann décisif comme d'habitude, comme très souvent.
C'est vrai. Bah, on dit toujours que Griezmann n'est pas.
On le critique, mais il marque souvent dans des buts, dans des moments importants.
Et il tire très bien les coups de pied arrêtés aussi, je trouve.
Ouais, ouais.
Mais oui, non. Heureusement qu'on fait minimum nul parce que sinon, ça aurait été le dernier match aurait eu beaucoup de pression, beaucoup de pression. Mais globalement, à part l'Italie, comme tu disais, Philippe, et peut-être l'Allemagne hier face au Portugal, qui ont été impressionnants.
C'est le plus beau match de l'Euro.
Oui, c'est le plus beau match pour l'instant.
De très loin. Hein.
Oui, oui. La Belgique aussi qui a
sur son premier match.
Sauf son premier match, mais
contre le Danemark,
dès que Kevin De Bruyne est rentré en...
Oui, mais la Belgique, ça peut être un gros temps. C'est une équipe qui est capable peut-être de faire un grand match et puis de passer à travers.
Oui, mais ils ont des individualités. Oui, ils ont des individualités qui peuvent faire. Enfin, je veux dire, ils ont bien vu que la première mi-temps de leur dernier match n'était pas bonne. Ils ont fait rentrer Kevin De Bruyne et ça a tout changé. Il y a eu un jeu collectif et il emmène la confiance aux autres joueurs. Mmh. Et ça, c'est très important pour leur équipe. Après, le fait qu'il y ait maintenant des huitièmes de finale avec les quatre meilleurs troisièmes qui se qualifient, ça change un peu les choses. Et
oui, parce que je regardais hier en préparant cette émission après les matchs, 4 points, on est pratiquement, on est pratiquement en huitièmes de finale. Même si l'équipe de France est battue par le Portugal mercredi, même si l'Allemagne bat la Hongrie, l'équipe de France termine quatrième avec 4 points. Elle termine troisième avec 4 points, elle est en huitième, quoi.
Voilà. Mmh. Mais après, c'est vrai que du coup, il y a des matchs, il y a des groupes qui vont être importants.
Oui,
l'Espagne encore.
Justement, on va aller.
Voilà, on fait encore
très
un partout hier.
Nouveau,
hein.
Très
donc,
décevant.
C'est dingue quand on voit des équipes comme l'Espagne qui sont freinées comme ça d'un seul coup.
Oui, bah ça fait un moment quand même. Hein. Ça fait quelques années. Mais, ça fait 2-3 ans maintenant qu'ils sont dans la reconstruction.
Pour revenir à l'équipe de France, quand on voit quand l'Allemagne a commencé à mettre le pied en deuxième mi-temps, il y avait que l'équipe de France qui pouvait l'arrêter. Hein. Bon, c'est ce qui est quand même encourageant.
Ça marche pas. Parfait, sans faille, l'équipe de France. Sans faille, match parfait, hein, dans tous les compartiments. Et on a vu des attaquants qui sont venus défendre, hein, même
Mbappé
et Benzema. Sont
c'est ça qui était plaisant. On a l'impression que, je sais pas ce que vous en pensez, mais dans cette équipe de France, par exemple, Paul Pogba, Griezmann, ils sont meilleurs en équipe de France que dans leur club respectif.
Ce qui n'est pas le cas de Benzema.
Pour l'instant,
Pour l'instant,
c'est vrai que 3 matchs, inefficacité. Il y a un pénalty que le gardien arrête en premier match. Et puis.
Hier, il loupe des occasions qu'il loupait pas rien.
Alors, ça n'appartient qu'à moi, mais c'était prévisible. Moi, on fera le bilan, comme dirait Philippe. Après, on peut réécouter les bandes. Hein. Mais moi, j'étais pas pour le retour de Benzema. Mais ça reste un grand joueur dans son club.
C'est un super joueur quand même.
C'est
dommage de se passer d'un joueur avec un tel potentiel.
Oui, mais l'équipe de France était tellement bien rodée.
Oui.
On a vu dans les matchs amicaux, le dernier match amical de l'équipe de France, Giroud, il rentre, il marque 2 buts. Mais c'est ça le plus important. Benzema, il est quand même, quand on regarde en équipe de France avant qu'il ne soit pas sélectionné, je crois qu'il a le record des matchs, 16 matchs sans marquer. C'est pas la critique de Benzema, hormis l'aspect externe au football que je veux pas commenter, mais en équipe de France, Benzema n'est pas comme dans son club, donc c'est un très
c'est
grand
vrai.
Joueur.
Pour
je pense qu'il lui manque un but. Dès qu'il va marquer,
c'est
ça va peut-être.
C'est une question de confiance.
Et je trouve que le jeu Mbappé joue pas pareil quand il y a Benzema. Enfin bon, après je fais confiance à Didier Deschamps, hein, c'est son taf, hein, il est plus expert que moi. Mais
On veut pas incriminer les joueurs. Il y a un deuxième joueur qui est passé un petit peu à travers hier, c'est Pavard. Il a eu du mal à rentrer dans le match. Hein. On l'a vu, ça a été un petit peu mieux après. Puis bon, après il y a cette grosse erreur défensive où il est pas seul responsable. Hein. Il y a aussi Varane qui est important. Mais donc c'est la seule grosse erreur défensive que l'équipe de France malheureusement a payé cash.
Il faut pas lui tomber dessus.
C'est pour ça que.
C'est clair parce que à la base Benjamin Pavard c'est un stopper. Hein. Il n'est pas latéral droit. Hein. On l'a mis latéral droit Didier Deschamps. L'a mis latéral droit à la Coupe du Monde 2018 et maintenant il a installé là même au Bayern Munich, mais à la base c'est un stopper. Il est formé à Lille et il a été formé comme stopper.
Stopper là, de toute façon, il était.
Oui, c'est vrai.
Il était mis dans le banc. Hein.
Mais il a fait des très bons matchs. Il nous a. Rappelez-vous du but qu'il met face à l'Argentine en 2018.
Hein. Pierrot, il a tout résumé. Je crois que, en fait, ce qui s'est passé hier. Les mecs, ils vont en entendre parler, là. Deschamps, tout ça. Mais c'est bien que ça leur soit arrivé, là.
Quelque part, oui.
Voilà. Les gars, c'était la Hongrie. Mais qu'est-ce qui s'est passé, là? Voilà. Les mecs, ils sont pas bêtes, hein. Et ils se rappellent qu'ils ont perdu une finale déjà contre le Portugal.
On a regardé le match. Je suis sûr que vous pensiez la même chose que moi pendant le match. À partir du moment où les Hongrois ont mis le but, on savait que maintenant ils passeraient plus la ligne médiane. Ils ont mis le bus derrière.
C'est-à-dire qu'ils l'ont fait. Ils se sont fait piéger quand même. Hein, l'équipe s'est coupée en deux. Après, ils ont compris la leçon, donc ils sont restés derrière. Hein.
Mais c'était prévisible. Parce qu'ils sont quand même limités. Ils jouent avec leurs armes et avec leur cœur, quoi, pour leur public, etc.
C'est ça le problème.
Et voilà, ils ont fait comme ils ont pu et ça a marché cette fois-ci.
Alors notre ami José nous a rejoint.
Bonjour José.
Ça va?
Bonjour.
Salut, bonjour José. À tous. Ça s'est bien passé?
Oui, ça s'est bien passé.
Les gens vont voter en masse?
Oui, un petit peu, mais pas comme d'habitude. Mais
très bien.
J'y retourne tout à l'heure.
Très bien, bah oui, il y aura les pronos hippiques donc en fin d'émission. Oui. José, donc le début de cet Euro de foot, donc l'équipe de France qui bat l'Allemagne 1-0 mardi, et puis hier, match un peu moyen, 1-1 pour l'équipe de France. Oui. C'est un bel avertissement.
Oui, je pense. Je vous écoute en revenant en voiture, et c'est vrai que cet Euro, pour l'instant, Bibi le disait tout à l'heure, il n'y a pas d'équipe vraiment impressionnante.
Ouais. L'Italie, et l'Allemagne hier.
L'Italie, oui, c'est vrai que l'Italie m'a bien plu.
Le beau match, les Italiens.
Oui, et donc, pour revenir au match d'hier avec le Portugal a dû jouer avec la peur au ventre. Bon, peut-être aussi que l'Allemagne les a empêchés de jouer.
L'Allemagne est costaud.
Ils n'avaient pas de choix, de toute façon.
Voilà, et je trouve de toute façon que le résultat 4-2 est logique. Et ça aurait pu être même plus lourd, mais je pense que.
Ça aurait pu être 4-3 aussi. Hein.
Oui, ça aurait pu être 4-3.
Déjà, c'est un beau match.
Le poteau de.
Oui, il y a quand même.
Voilà. Il y a eu un poteau, bon, 4-3, mais je veux dire, ça, la physionomie du match, ça retrace le score. Mais c'est vrai que le Portugal a joué avec la peur au ventre. On n'a pas vu un grand Bruno Fernandes, on n'a pas vu Moutinho qui est rentré après, qui a donné un petit coup de fouet, mais on n'a pas vu un grand Ronaldo. Bon, l'équipe a été étouffée.
Ça a été compliqué. Hein.
Voilà, la Hongrie, comme la France, ça a été compliqué contre la Hongrie. Mais c'est vrai que j'ai pas vu cette cohésion d'équipe et ce jeu avec une balle qui circule vraiment comme à la play. Les Allemands ont étouffé le jeu portugais, ils n'ont pas pu développer leur jeu. Voilà ce que je voulais dire.
Match nul mercredi, Portugal France, ça semble raisonnable.
Match nul, ça serait raisonnable puisque ils termineraient deuxième et troisième. Et puis bon, ils seraient qualifiés pour les huitièmes. Mais mon cœur est partagé entre les deux, mais.
T'auras quoi comme
un maillot chaque mi-temps?
Non, maillot chaque mi-temps. On peut pas porter deux maillots, tu auras quoi comme maillot, José?
Il
va voir si je t'embrasse à la fin du match ou si je te chambre.
J'ai un piège. Mais c'est un piège. Mais. On m'a déjà fait ça en 2016, rappelez-vous. Mais bon,
Là, c'est méchant ce que tu dis.
Mais bon, c'est pas grave. Mais mon cœur est partagé, vous savez très bien, entre les deux. Mais si l'équipe de France, en fin de compte, celui qui aura pratiqué le meilleur jeu et celui qui gagnera, je serai content. De la même façon que ce soit l'équipe de France ou l'équipe du Portugal, j'ai peut-être une petite préférence, je suis honnête, pour le Portugal, mais j'espère qu'ils feront match nul, comme ça ils passeront tous les deux et je serai ravi. Et je voudrais les retrouver en finale, chose qui est peut-être pas impossible, on sait pas.
Bon, on verra. Allez, on va marquer une page de pub, une pause musicale, ensuite on va rentrer dans le détail des groupes donc de 7 euros 2021. On y va.
Des vins de qualité pour votre repas de famille, entre amis, pour une réception ou un mariage, un cadeau original, un vieux millésime ou un whisky étonnant, alors plus d'hésitation. Venez découvrir au 135 rue Georges Lenôtre à Rambouillet, la cave Rambolitaine. Votre caviste indépendant, votre antiquaire du vin. Pour suivre nos animations, retrouvez-nous sur notre page Facebook, la cave Rambolitaine. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez consommer avec modération.
Le meilleur de la Bretagne est à la crêperie Tibilig. Galettes, crêpes, salades et glaces à base de délicieux produits frais. La crêperie Tibilig vous accueille du mardi au samedi avec sa carte et ses menus. Venez passer un moment agréable et détendu autour d'un bon repas à la crêperie Tibilig. 13 place Félix Faure à Rambouillet. Réservation 01 30 46 23 11.
Batipro France, les compagnons maçons de Rambouillet, votre partenaire pour les projets neufs ou de rénovation, petits ou gros œuvres. Batipro France est votre spécialiste pour la réalisation de tous vos travaux, de maçonnerie générale, pavillon individuel, toiture, fenêtre, carrelage et l'installation de votre portail. Pour des réalisations de qualité qui bénéficient de la garantie décennale et forte d'une expérience de 20 ans. Confiez-nous vos projets en toute sérénité. Vous avez un projet? Appelez Batipro France, les compagnons maçons de Rambouillet. Devis gratuit au 01 30 88 97 54 et sur batipro-france.com.
Nouveauté à l'Abbatienne de Menuiserie. Améliorez les performances énergétiques de votre habitation et faites des économies d'énergie en optant pour l'isolation par l'extérieur. Demandez vos devis gratuits au 01 34 85 87 32. 01 34 85 87 32. Abbatienne de Menuiserie, votre spécialiste en menuiserie sur mesure, reconnu au Grenelle de l'environnement. Showroom, 27 rue de Chartres, opéré en Yvelines. Voir conditions magasin.
Et maintenant, une demi-heure sans pub.
Une demi-heure sans pub sur RVE.
Thank you.
Alors 10h30, on va effectivement disséquer un peu les différents groupes depuis le début des 7 euros. On en a terminé avec les deux premières journées, donc on va entamer dès aujourd'hui la troisième journée de ces groupes. Alors dans le groupe A, c'est l'Italie qui est en tête avec 6 points, devant le Pays de Galles, deuxième, 4 points, troisième la Suisse, 1 point, quatrième la Turquie, 0 point. On va quand même rappeler que l'Italie s'est imposée 2 fois 3-0, ils ont battu la Turquie, donc 3-0, et la Suisse 3-0, qu'il y a eu un nul entre le Pays de Galles et la Suisse, 1 partout, et que le Pays de Galles a battu la Turquie 2-0. Messieurs, comment vous voyez cette poule d'Italie déjà qualifiée? Alors il reste quand même 2 matchs à 18h aujourd'hui, Italie Pays de Galles et puis Suisse Turquie.
Oui, je pense que dans ce groupe, l'Italie, bon, bien sûr, va se qualifier, mais c'est l'équipe pour l'instant qui m'a le plus impressionné dans cet Euro, avec peut-être un peu l'équipe de France et l'équipe d'Allemagne.
Bon, le Pays de Galles est pratiquement qualifié aussi. Hein, aussi, oui. Arrive, maintenant Suisse-Turquie.
mais c'est vrai que
la Turquie, on les attendait un peu.
Oui, un peu mieux.
Je crois que c'est l'équipe les plus décevantes de l'Euro.
Voilà. Oui,
parce avec 0 points.
On les avait joués en groupe éliminatoire. Ils avaient posé des petits problèmes quand même. Moi, je suis au Stade de France.
Oui, on a perdu la barre 2-0.
Donc là, ils ont une petite baisse de régime. Je ne sais pas ce qui se passe, mais.
Et la Suisse pouvait être une équipe surprise parce que des fois, nous habituons à ça.
Oui.
Enfin, je veux dire que dans les secondes.
C'est une équipe de huitième de finale, quoi.
Voilà. Mais bon.
Mais bon, pour en revenir à l'Italie, Mancini a réussi à créer un super groupe avec des jeunes qu'il a intégrés et qui pratiquent un jeu plaisant à voir.
Ouais, il n'y a pas de star dans cette équipe. Et du coup, c'est surtout le collectif avec des anciens qui encadrent tout ça. Derrière, Chiellini, bon, il est blessé, mais Bonucci, etc. Puis des jeunes et des joueurs confirmés comme Immobilier.
Oui, et puis
un attaquant.
Ça change des équipes italiennes.
C'est plus, un attaquant de grande classe, Immobilier, parce que je ne sais pas s'il a fini premier buteur du Scudetto. Là.
Mais, non, c'est Ronaldo.
C'est Ronaldo, mais il ne doit pas être loin. Il doit être deuxième ou troisième. Mais donc, Immobilier, surtout. Tout le fond de l'attaque.
Moi, l'Italie, c'est vrai qu'ils ont été impressionnants.
Oui, après, ils ont joué.
On voudrait les voir jouer contre une équipe.
France, contre le Pays de Galles. Le Pays de Galles, qui est une équipe accrocheuse, on va dire ça comme ça. Mais bon, maintenant, comme ils sont sûrs d'être qualifiés, le Pays de Galles, peut-être que ça va être un match, ils vont être plus détendus.
Voilà.
Maintenant, on attendra l'Italie en 8e.
Oui, voilà. Alors, dans le groupe B, c'est la Belgique qui est en tête avec 6 points. Devant la Russie et la Finlande, donc Russie 2e, Finlande 3e avec 3 points. Et le Danemark 4e, 0 points. On va rappeler que la Finlande, on se rappelle d'un match un peu particulier, avait battu le Danemark 1-0. La Belgique avait donc fait une belle impression en battant la Russie 3-0. Ensuite, la Russie a battu la Finlande 1-0. Et puis, les Belges ont quand même été en difficulté. Ça a été un peu plus difficile en s'imposant face au Danemark 2-1. Est-ce qu'elle n'est pas inconstante, cette équipe belge? Alors pourtant, elle a des talents individuels.
Non, je sais pas. Je me méfie aussi de la Belgique. Ils avancent masqués. On parle moins d'eux. C'est encore une fois, ils ont déroulé face à la Finlande. Non, ils ont déroulé face à la Russie 3-0.
Oui, 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 très bon match. Hein.
Et contre le Danemark, c'était un peu plus difficile.
Ouais, ils étaient même menés.
Ils ont rattrapé, ils ont rétabli la situation au deuxième temps.
Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, avec l'entrée des joueurs cadres. Puis ils ont un banc, enfin, ils ont des joueurs exceptionnels. Hein. Eden Hazard, il est sur le banc. Witzel, il est sur le banc. De Bruyne, il est sur le banc. Ouais. Lukaku en attaque. Mertens. Mm-hmm. Faut se méfier des Belges, je pense. Après, encore une fois, comme l'Italie, il faudra avoir face à des grosses équipes parce que c'était pas un groupe très relevé.
Oui, oui.
Le Danemark, on pouvait attendre mieux du Danemark,
oui, c'est
mais
ça,
avec ce qui s'est passé pour Eriksen, on peut se dire qu'ils ont autre chose dans la tête.
Oui.
On verra.
Alors, en tout cas, il y aura Russie, Danemark et Finlande, Belgique à 21h. Ça sera donc lundi 21 juin.
Ouais, je pense que la Belgique et puis la Russie vont passer au tour suivant.
Ouais, ouais. Alors ensuite, dans le groupe C, bon, bah là, ce sont les Pays-Bas qui mènent avec 6 points. Eux aussi sont déjà qualifiés. L'Ukraine, deuxième, 3 points. L'Autriche, troisième, 3 points. Et quatrième, donc, la Macédoine du Nord, 0 points. Ouais, on va rappeler que l'Autriche a battu la Macédoine du Nord 3-1, alors que les Pays-Bas, c'était un très beau match aussi. Hein,
contre l'Ukraine.
A battu l'Ukraine 3-2. Hein. Et puis, victoire de l'Ukraine devant la Macédoine du Nord 2-1 et des Pays-Bas devant l'Autriche 2-0.
C'est un classement logique, ça.
Oui, c'est logique.
Voilà, c'est respecté.
Les Pays-Bas, l'Ukraine, c'est... Voilà.
Ouais, après, le Pays-Bas, je...
Alors, eux peuvent être inconstants aussi.
Voilà. Les Pays-Bas, je les mettrais dans le même lot.
Il y a une certaine suffisance, des fois.
Ouais. Je les mettrais dans le lot de l'Angleterre, un peu. Des équipes qu'on attend toujours un petit peu et en fait, qui sont toujours décevantes.
Oui. Voilà, ils ont fait une bonne impression sur le premier match contre l'Ukraine. Ils ont, mais il y a aussi une bonne équipe ukrainienne aussi. Hein.
Voilà, ils gagnent 2-0, ils se font rejoindre 2-2. C'est compliqué.
C'est ce petit défaut,
ils ont des creux, quoi.
En fait, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas d'équipe mauvaise. Alors, il y a des équipes plus faibles que les autres, mais contrairement aux autres compétitions dans les années antérieures, il y a quand même des équipes accrocheuses, que ce soit la Hongrie, l'Ukraine.
Voilà, bon, ça c'est le niveau s'est resserré.
Le niveau s'est resserré. Et c'est ce qui est intéressant.
Voilà. Bah, quand on voit la Macédoine du Nord ou la Hongrie, par exemple, c'est des équipes limitées, mais bon, ils ont des coachs étrangers. La Hongrie, ils ont un coach italien,
ça qui est beau pour le spectacle et on est heureux de retrouver quelques spectateurs.
Ça fait dans les
stades. Oui, ça... L'ambiance n'est tout à fait pas la même que quand
on l'a vu à Budapest hier.
Oui, mais ça, à Budapest, c'est particulier. Voilà. Nous, on n'en est pas encore là. On est, je crois, entre 10 et 15 000, mais c'est bien qu'on retrouve l'ambiance humaine dans les stades. C'est même pour les joueurs, je pense que c'est mieux.
Alors il y aura Macédoine du Nord, Pays-Bas et Ukraine, Autriche. Ça sera donc toujours lundi 21 juin, mais à 18h.
Ouais, et là c'est l'Ukraine, Autriche.
Ça va être
un match important. Oui, pour savoir qui sera deuxième.
Voilà, celui qui gagnera sera deuxième.
Alors, donc, dans le groupe D, c'est la République tchèque qui est en tête. 4 points devant l'Angleterre, 4 points. Troisième, la Croatie, 1 point. Et quatrième, l'Écosse, 1 point. Alors, l'Angleterre a battu la Croatie 1-0. On a vu la victoire de la République tchèque devant l'Écosse 2-0. Croatie, République tchèque, 1 partout. Et puis, Angleterre, Écosse, 0-0.
Un peu décevante, la Croatie. Ah
ouais. Puis je crois que c'est...
Les deux côtés, les Écossais, ils ont joué à leur niveau. Mais alors, les Anglais,
de donner ce classement-là dès le début.
Quand on voit l'équipe de Croatie en Coupe du Monde contre la France en finale, et puis quand on la voit maintenant, c'est pas tout à fait la même. On est déçu pour cette équipe qui pratiquait un super football ouvert.
La République tchèque qui était plutôt surprenante avec peut-être le plus beau but de l'Euro, le lob de 50 mètres de Patrick.
Mais en fait, excuse-moi parce que je trouve que tu dis vraiment des choses justes. T'as résumé tout à l'heure. Est-ce que c'est pas maintenant, quand on est dans ces niveaux-là, des histoires d'entraîneurs aussi? On a beau avoir des bons joueurs, là, on voit la Croatie et tout. Est-ce que c'est pas une histoire d'homme, une histoire de préparation mentale pour cette compétition?
Je pense qu'on oublie beaucoup parfois le rôle de l'entraîneur.
Ouais.
On peut le voir sur certaines équipes. Quand il y a des changements d'entraîneur, l'équipe elle joue plus pareil. Et c'est vrai que dans certains pays comme la Hongrie ou d'autres pays qui sont pas des pays de football, ils amènent les entraîneurs étrangers comme les Italiens, les Portugais sont beaucoup exportés en Grèce ou en Angleterre.
Voilà.
À un certain moment, ils apportent leur expertise.
Vous avez raison, c'est la stabilité de l'entraîneur. C'est pas en un an ou en deux ans qu'il réussit. C'est sur la longueur. Bon, une équipe où il y a un entraîneur qui est là depuis 3-4 ans, on voit la différence. Quand Fernando Santos est arrivé au Portugal, on a vu un peu la différence. Didier Deschamps en équipe de France. On voit maintenant Mancini en Italie. On voit qu'il y a un petit coup quand même. Il y a petit choc psychologique
puis, en France, il y a surtout
des philosophies de jeu.
Mais en France, on a aussi un avantage, c'est que non seulement on a un entraîneur, mais on a un excellent entraîneur.
On a des joueurs de talent.
On a des joueurs de talent. Et Didier Deschamps, je veux dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Le seul que j'ai connu, c'était Aimé Jacquet.
En tant qu'entraîneur et surtout en tant que joueur, il a tout gagné.
C'est l'expérience aussi, il y a ce côté.
Mais ce qui est important, juste pour finir là-dessus, c'est vrai que moi, ce qui me plaît, c'est que certains entraîneurs qui sont des très bons entraîneurs, ils sont pragmatiques et ils savent. Ils savent en fait l'effectif qu'ils ont et s'ils sont limités ou pas. Ceux qui s'adaptent à leur équipe, pour moi, font les meilleurs entraîneurs. Et Didier Deschamps en fait partie, certainement.
Alors donc, il y aura République tchèque, Angleterre et Croatie-Écosse à 21h. Ce sera le 22 juin, donc ce sera mardi. Voilà. Dans le groupe E, la grosse déception, donc c'est la Suède qui est en tête avec 4 points, devant la Slovaquie 3 points, 3e l'Espagne 2 points, 4e la Pologne 1 point. Grosse déception pour l'Espagne. Là aussi une pure 0-0 contre la Suède. Victoire de la Slovaquie contre la Pologne 2-1, victoire aussi de la Suède contre la Slovaquie 1-0 et nul hier soir entre l'Espagne qui a même raté un pénalty face à la Pologne 1-1. Même la Pologne décevante quand même.
La Pologne, ça fait peut-être 4 ans qu'on se dit ça peut être un outsider parce qu'ils ont Lewandowski en fait.
Mais
ça suffit pas. Ça suffit pas.
Lewandowski joue au Bayern.
C'est pas pareil.
Et l'Espagne est décevante. On a pu le nombre de joueurs de Barcelone et du Real qui composent cette équipe-là comme avant.
Ils ont gardé le même style de jeu, mais moins talentueux.
On voit quand même que la balle. Circule beaucoup moins vite.
C'est ça qui faisait leur force. Ils épuisaient les adversaires.
Ils jouaient une touche de balle. Et rapide.
L'Espagne, c'est complètement un fiasco. Parce que il y a une histoire. Justement, on est au contraire d'un bon entraîneur pour moi. Luis Enrique, il a fait des choix. Il a pris aucun joueur du Real Madrid en fait, et un peu par vanité parce que c'est un ancien joueur du Barça, etc., de la grande époque du Barça, etc. Et il manque des joueurs, quoi. Alvaro Morata, il a pas le niveau. Même il marque contre la Pologne hier, c'est vrai, mais il manque des joueurs, quoi. Il aligne un 11 de titulaire qui est pas cohérent. Par vanité, par fierté, il met son équipe dans le trou. Mais c'est dommage parce que c'est une grande nation du foot.
Ouais. Alors il y aura Suède, Pologne et Slovaquie, Espagne. Ça sera le 23 juin, donc ça sera mercredi, le jour de France-Portugal, à 18h. Et le groupe F, on y arrive. Donc l'équipe de France, on l'a dit, en tête à 4 points. Devant l'Allemagne, 3 points, 2e. 3e le Portugal, 3 points. Et la Hongrie, 4e, 1 point. Donc on va rappeler une victoire du Portugal devant la Hongrie, 3-0. Et l'équipe de France devant l'Allemagne, 1-0. Hongrie-France, hier, match nul, 1-1. Et puis donc le match de l'Euro, victoire des Allemands, 4-2, devant le Portugal. Bon là, on peut penser que les 3 gros vont passer, quel que soit l'ordre.
J'espère bien. J'aurais bien voulu que la France termine au moins première et le Portugal deuxième, mais ça va pas, peut-être certainement pas se passer comme ça, puisque l'Allemagne, je pense qu'ils vont battre la Hongrie quand même.
Oui.
J'espère que non, mais bon. J'espère que quand même le Portugal et la France seront qualifiés.
Est-ce qu'ils vont jouer le jeu tous les deux ou est-ce qu'ils
C'est quand même deux équipes, quand elles s'affrontent, il y a quand même un certain prestige. Et il y a une sorte de rivalité entre les deux, vu que la communauté portugaise qui est en France, il y a toujours un petit peu
On va se faire chambrer pendant une semaine. On va entendre les klaxons, on va se faire chambrer jusqu'au début de la mi-temps. Ils vont marquer les premiers. Alors là, ça va être catastrophique. Dans les rues,
c'est pas grave. Ça, c'est pas grave.
Et malheureusement, après, on va gagner 2-1.
Voilà, ça, c'est pas grave parce que au moins, ils sont joyeux, mais ils foutent pas le bazar.
Ah non, mais c'est toujours un plaisir.
Ça rappelle des bons souvenirs avec Bibi au Narval en 2006 quand l'équipe de France bat le Portugal 1-0.
Ça rappelle aussi certaines choses où.
On va pas revenir.
C'est nos frères, les Portugais. C'est nos frères. Mais en étant objectif, je pense que si les deux équipes jouent.
Ça va être serré quand même. Ça va être serré.
Personnellement, je vois la France gagner. Beaucoup 1-0, mais je vois un match avec une intensité et quelque chose de beau.
Pour le spectacle, c'est bien.
Et sincèrement, je souhaite que les deux équipes se qualifient avec l'Allemagne de toute façon, puis au moins on sort d'un groupe de la mort. Contrairement aux autres. on sera affronté, on aura, voilà.
on aura, on sera prêt.
On sera prêt, on aura combattu, les trois équipes auront combattu des hommes.
Et pourquoi pas une revanche en finale? Et
puis, c'est l'Allemagne en finale.
Je pense pas.
Dimanche prochain, déjà, on en saura un peu plus, sur les matchs de, des huitièmes de finale, qui vont commencer samedi prochain. Voilà. Donc, on en saura un peu plus.
On commencera à voir plus clair dans les groupes et dans les qualifiés.
Parce que là, c'est vrai, comme disait Bibi, c'est assez compliqué quand même. C'est assez débile.
Pour l'instant,
voilà. Bon, enfin bon. Grosso modo, c'est un niveau moyen le début de cet Euro au niveau des matchs.
Il y a quelques matchs que j'ai eu l'occasion de voir, notamment l'Italie, mais comme ils ont joué
et la Belgique contre
des équipes un peu entre parenthèses un peu plus faibles, mais je voudrais bien voir l'Italie quand même contre une Belgique, une Allemagne, France, Portugal. Bon voilà, et alors, là on pourrait évaluer le niveau.
Et l'arbitrage, alors on le trouve assez permissif, cet arbitrage.
Pour l'instant, il est pas.
Contre la France, c'est peut-être deux cartons qui ont été oubliés quand même.
Oui. Voilà. Enfin, bon. Y a toujours des erreurs d'arbitrage,
Mais moins que d'autres années, je trouve.
Voilà. Il y a moins de problèmes, il y a moins de.
Ils ont révisé. Voilà. Ils ont révisé les mains dans la surface.
Ce que je trouve bien,
parce que ça devenait une aberration.
Que je trouve bien, c'est que les joueurs font moins de cinéma quand même. Il y a quelques années, on voyait, ils se roulaient, bon, ils avaient mal là, maintenant.
C'est parce qu'il n'y a pas le Brésil.
Les joueurs de football masculin commencent à regarder le football féminin. Ils voient
peut-être
bien que
aussi,
quand il y a des coups, les femmes, elles font pas de cinéma.
Oui.
Donc ils s'inspirent, ils disent, tiens, voilà quoi.
Très bonne parole.
Il y en a aussi qui vont un peu chez les femmes, ça.
Non, mais globalement, l'Euro. Après, c'est vrai que l'Euro a été ouvert à plus d'équipes. C'est des équipes un peu peut-être plus faibles et du coup, c'est aussi pour ça que le niveau est peut-être un peu moins bon.
Après,
on va assister quand même à des huitièmes et des quarts de finale. À mon avis, ça va être magnifique.
Oui. Comme on dit toujours, c'est notre compétition qui commence, quoi.
Voilà. Alors, je sais pas si c'est moins bon. Moi, j'irais plutôt que c'est plus équilibré.
Oui,
parce que
il y a des matchs fermés.
On peut avoir des matchs plus fermés parce qu'on veut pas prendre de risques parce que là, on sait que il y a des chances au bout.
Sur un match,
c'est pas forcément les meilleurs matchs.
C'est vrai qu'avec, je sais pas si ça va être le cas, mais avec trois matchs nuls, on peut peut-être se qualifier. Donc,
ça dépend des autres groupes.
Mais voilà. C'est vrai qu'il y a des équipes qui doivent penser à ça.
En 2016, les Portugais ont bien été en finale sans gagner un match.
C'est ce que j'allais dire.
Donc attention
à l'Espagne, ça se trouve.
Enfin, ils ont gagné les matchs pour être en finale. Ils les ont gagnés.
Après,
ils ont terminé troisième de leur
groupe. Mais dans le groupe, quand ils avaient les poules de groupe, ils avaient pas gagné un seul match.
Très bien. Allez, la deuxième page de pub, la deuxième pause musicale, et puis ensuite, c'est la fête des pères aujourd'hui. Donc, comme pour la fête des mamans il y a quelques semaines, on veut gagner un peu d'argent. Donc, José va nous donner des bons pronos pour la sixième réunion aujourd'hui à l'Hippodrome de Rambouillet. Puis, on reviendra quand même sur le prix Hervieux qui va se dérouler aujourd'hui et sur celui qui s'est déroulé il y a 15 jours. Allez, la pub et la musique.
Il y avait plus cette petite flamme entre nous. Je le trouvais vieilli, terne, ennuyeux. Bref, je pouvais plus le voir. Alors je l'ai remplacé. Et celui-là, il a vraiment tout ce qu'il faut. Brillant, classe. Je ne me lasse pas de le regarder.
Plafond fissuré, vieilli, peinturé, caillé. Avec Creative Design, le spécialiste du plafond tendu, changez pour un plafond séduisant. Mat, brillant ou satiné, Creative Design pose votre nouveau plafond dans la journée. Sans poussière et sans odeur.
Une œuvre d'art.
Rendez-vous sur creativedesign.fr 01 58 88 21-20.
Nouveau à Limours, votre magasin Brico Marché ouvre désormais ses portes le dimanche de 9h30 à 12h30. L'occasion de profiter jusqu'au 30 juin de la foire au terreau et de la foire au paillage pour faire de belles affaires.
Vous recherchez la brillance absolue ? L'horlogerie bijouterie Joaillerie Galoni, 19 rue du Général de Gaulle à Rambouillet, vous invite à découvrir le seul diamant carré taillé comme un brillant rond parfait. Le Flanders Cut est un diamant d'exception à la brillance extrême, fait pour vos colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, bagues, bracelets et parfait pour toutes les formes de sertissage. Pour le plaisir d'offrir, choisissez le Flanders Cut à la brillance extrême. Horlogerie bijouterie Joaillerie Galoni, 19 rue du Général de Gaulle à Rambouillet. Ouvert de 10h à 19h mardi, jeudi et samedi et de 10h à 12h30 et de 14h à 19h le mercredi et vendredi.
Vous êtes un particulier ou un professionnel ? Vous souhaitez réaliser des travaux dans le neuf ? Rénover et mettre aux normes vos installations électriques ? Programmer et gérer efficacement votre chauffage électrique ? Plus d'hésitation, contactez la société Brifo Électricité, votre spécialiste. Devis gratuit et dépannage rapide. Brifo Électricité, 01 30 46 11 56 et sur brifo-électricité.com.
RVE 103.7.
Doing it right, everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing and we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing and we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing and we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing and we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing and we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing and we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing and we're feeling alright. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right.
If you lose your way tonight, that's how you know the magic's right.
Doing it right, everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing and we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be feeling it right. Everybody will be dancing and we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and we're feeling alright. Everybody will be dancing and we're feeling it right.
La réécouter en podcast, hein, puis je vous rappelle, nous sommes là jusqu'au 18 juillet. On est en configuration euro et il y aura le Tour de France qui viendra s'y rajouter la semaine prochaine. José, donc on veut gagner de l'argent. Alors d'abord, on va revenir sur le prix RVE d'il y a 15 jours. Hein. Oui. On était à l'hippodrome de Rambouillet. Il y avait énormément de monde. On a parlé de la rentrée des gens au niveau du foot, mais à l'hippodrome, pour la rentrée des spectateurs, grande affluence il y a 15 jours.
C'est vrai qu'il y avait pas mal de monde. Il y avait beaucoup de gens au restaurant. Il y avait beaucoup de personnes qui jouaient ou qui venaient voir les chevaux par plaisir. Et il y avait aussi des jeux pour les enfants. Il y avait les poneys, etc., etc. Et c'est vrai que c'était une belle réunion, une belle réussite. Bon, mes pronostics que j'avais donné pour dimanche dernier, bon, il y a eu quelques gagnants. Hein, c'est pas l'apothéose, mais bon, on fait ça pour s'amuser. Hein, c'est pas des grands joueurs. Mais j'espère qu'aujourd'hui ça va être la même chose. Donc il y avait un prix RVE. Aujourd'hui il y aura encore un prix RVE dans
c'est
la cinquième course.
C'est pour récompenser notre fidélité.
Voilà. Et donc on aura 9 courses au programme, dont la dernière qui sera une course pour amateurs.
D'accord. Alors on écoute déjà le vainqueur du prix RVE d'il y a 15 jours. C'était Kevin Leblanc qui s'est imposé assez facilement dans l'ensemble avec Ireno Desplaines. On écoute. Allez, avec Kevin Leblanc, donc vainqueur du prix RVE sur Ireno Desplaines. Kevin, un petit mot, racontez-nous votre course.
Eh bien, j'ai pas hésité à venir de bonne heure parce que c'est un cheval qui est dur mais qui est très froid, alors il faut réussir à passer les autres. Et malheureusement, j'ai pas réussi. Donc je suis resté un peu en épaisseur et il était au bout. Donc non, c'est très bien parce que c'est dur.
Oui, les qualités de ce cheval?
C'est un cheval qui va pouvoir il va courir 2-3 fois, je pense, et puis après pouvoir courir à Paris l'hiver prochain.
D'accord. Vous aimez l'hippodrome de Rambouillet?
Oui, très bel hippodrome, très bonne piste, tout bien.
D'accord. La suite est quoi maintenant?
De journée? Rien. Là, non. Vous n'allez pas me revoir, je pense.
D'accord. En tout cas, combien de victoires?
88, je crois, un truc.
Impressionnant quand même.
Ouais, bah c'est pas beaucoup comparé à certains.
Merci en tout cas.
Merci à vous.
Voilà, sympa avec cette petite action du sud de Kevin Leblanc. Donc l'arrivée c'était le 10, le 6, le 1, le 13 et le 11. Alors on enchaîne aujourd'hui pour la sixième réunion à l'hippodrome de Rambouillet avec vos pronos, José.
Donc comme je le disais tout à l'heure, il y aura 9 courses au programme. Donc la première débutera à 14h et la dernière débutera à 18h. Donc je vais vous donner les pronostics de toutes ces courses. Donc dans la première, le 11, le 14, le 12, le 4 et le 1. Dans la deuxième, le 14, le 10, le 2, le 8 et le 11. Dans la troisième, le 11, le 5, le 8, le 3 et le 6. Dans la quatrième course, le 7, le 12, le 4, le 9 et le 10. Et donc, on arrive à la fameuse course prix RVE.
Le deuxième prix RVE,
voilà,
de la
qui
saison.
Sera la cinquième course, ouais, avec un départ vers 16h. Et donc, ça sera le 6, le 3, le 9, le 12 et le 5. Ensuite, la sixième course, le 5, le 13, le 15, le 2 et le 11. La septième course, le 4, le 9, le 12 et l'As. Et ensuite, la huitième, le 17, le 2, le 13, le 8 et le 4. Et on arrive donc enfin à la dernière course qui est une course pour amateurs qui aura un départ à 18h et avec 9 partants seulement. Et donc j'ai choisi le 5, le 3, le 8 et le 6. As, pardon, 5 As, 3, 8, 6.
Très bien. Alors on va rappeler les pronos, c'est une tradition, c'est une habitude, pour être bien clair. Hein.
On va rappeler les pronos, je vais juste annoncer la course. Donc oui, la première, le 11, le 14, le 12, le 4 et le 1. La deuxième, le 14, le 10, le 2, le 8 et le 11. La troisième, le 11, le 5, le 8, le 3 et le 6. La quatrième, le 7, le 12, le 4, 9 et 10. Passe à la cinquième, prix RVE. 6, 3, 9, 12 et le 5. La sixième, le 5, le 13, le 15, le 2 et le 11. La septième, le 4, le 7, le 9, le 12 et le 1. Ensuite, la huitième, 17, le 2, le 13, le 8 et le 4. Et la dernière, prix pour les amateurs, le 5, l'As, le 3, le 8 et le 6. Et je vous souhaite de gagner.
Absolument.
Et juste de vous amuser surtout.
Voilà. Et juste avant de partir en congé, puisque les prochaines réunions, ce sera à la rentrée, ce sera le 5 septembre, le 12 septembre et ensuite le 3 octobre. José, vous êtes assez en réussite, donc il faut continuer comme ça.
Hein. Bon, on va essayer.
José Francis, ça marche bien.
Oui, on va essayer. On fait ça surtout pour s'amuser et puis pour l'ambiance des courses.
Ah non, mais nos auditeurs, eux, ils veulent pas s'amuser.
Il y a quand même quelques gagnants, je pense.
Voilà. On va essayer. Et puis on va rappeler que, on le dit, on le répète à chaque fois, mais l'hippodrome c'est aussi très familial, on peut venir en famille, il y a des attractions, il y a des animations.
Il y a les poneys pour les tout petits, y a des attractions, il y a des maquillages pour les petits, il y a plein de choses comme ça.
Oui.
Et on peut se rafraîchir ou manger un petit morceau au restaurant.
Oui, et malgré le vote, y aura une belle journée.
Je pense, parce qu'il va faire beau quand même. S'il ne pleut pas, ça va être impeccable.
Merci José, merci Bibi.
À bientôt.
Bonne semaine d'euro, la semaine prochaine, vous revenez ?
Oui, avec plaisir.
Voilà, et puis merci à Pierre.
Merci Philippe, merci Bibi, merci José.
Merci à vous.
Et puis on va tous être avec l'équipe de France, naturellement,
oui.
Tout au long de la semaine, et on va les accompagner, et on espère le plus tard possible. Merci à Guillaume d'avoir été une nouvelle
fois.
Merci,
bonne journée à tous.
Bonne journée donc, à tous. Et pour cette émission, et rendez-vous la semaine prochaine, 27 juin, donc, entre 10h et 11h. Bon dimanche à tous et à tous, et vive plus que jamais l'équipe de France.
Oui. 10h-11h sur RVE. Retrouvez toute l'actualité sportive locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport avec Philippe Carnu. Il est 11h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous. Élections régionales et départementales. Le premier tour, c'est aujourd'hui et une faible participation est à craindre. Plus de 47 millions de Français sont inscrits sur les listes électorales, mais il est possible que l'abstention dépasse le record établi en 2010, qui était de plus de 53% pour les régionales et plus de 55% pour les cantonales. Télétravail, des personnalités plaident pour l'instauration d'un chèque bureau sur le modèle du ticket restaurant, un dispositif qui permettrait notamment de payer aux salariés l'accès à un espace de coworking. Dans une tribune publiée dans le journal du dimanche, l'ancienne ministre du Travail, Myriam El Khomri, et Benoît Hamon notamment, rappellent que dans l'accord prévu, le télétravail